plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Autoportrait en cinéphile, premier épisode, Nicolas Saada, avec aussi Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Ça fait 8 jours que les salles de cinéma ont à nouveau fermé en France, comme dans de nombreux pays dans le monde, et elles nous manquent. Pour autant, le cinéma est partout, dans nos vies confinées, accessible sur tous les écrans par la vertu des supports vidéo et des diverses plateformes. Mais c'est encore plus affolant. Que voir? Par où commencer? Il faut voir des films, c'est important, a dit un jour notre invité dans une interview, mais il faut pouvoir se laisser guider dans l'histoire du cinéma, et c'est pour cela que dans Plan Large, nous avons demandé à celles et ceux qui font le cinéma d'aujourd'hui, en attendant le jour le plus vite possible où ils reviendront nous parler de leurs dernières œuvres, d'être ces guides pour pouvoir poser des repères et nous aiguiller dans la vaste forêt des films qui attendent patiemment de dialoguer avec nous. Le tout sous la forme d'un autoportrait de l'artiste en cinéphile ou comment des films les ont construits, aidés à vivre et influencés dans leur art et sa pratique. Pour ouvrir le bal, un ancien critique des cahiers du cinéma des années 90, où il imposa comme auteur les cinéastes de genre de l'époque, les Joe Dante, John McTiernan et autres John Landis, et posa dans de passionnants entretiens des questions de cinéma aux grands cinéastes du moment, les Martin Scorsese, James Cameron, David Lynch ou Francis Ford Coppola, entretien publié l'an dernier dans un précieux ouvrage. Ancien homme de radio aussi à Radio Nova, où il transmit sa mélomanie cinématographique dans la très culte émission Nova fait son cinéma, tout en produisant parallèlement pour Arte, aux côtés de Pierre Chevalier, la génération des Claire Denis, Cédric Kahn, Arnaud Desplechin ou Pierre Salvadori. Après des scénarios écrits pour ces deux derniers, il devient enfin réalisateur lui-même, auteur de films aussi personnels que tournés vers le public comme Espion, Taj Mahal ou sa mini-série Thanksgiving, rediffusée à la fin du mois sur Arte. C'est Nicolas Saada, cinéphile éclectique et touche-à-tout et grand passeur de cinéma, qu'on remercie d'inaugurer avec nous cette série. En fin d'émission, Mathieu Macheret nous parlera de la magnifique trilogie de Cocker, cœur de l'œuvre d'Abbas Kiarostami, qui vient d'être réédité en coffret Blu-ray et DVD. Mais dans l'immédiat, c'est l'heure d'une bonne douche. Ça commence bien, dites-moi, Nicolas Saada, cette émission. On est dans l'horreur, la stridence, dans cet écran qui est comme lacéré par des coups de couteau. C'est évidemment la célébrissime scène de la douche dans Psychose d'Alfred Hitchcock, où comment se débarrasser de sa star Janet Leigh au bout de 30 minutes de film, comment aussi traumatiser des générations de spectateurs et influencer presque autant de générations de cinéastes. Pourquoi Hitchcock, Nicolas Saada, et pourquoi ce Hitchcock en particulier?
Ben, je dirais que dans mon amour du cinéma, ma découverte du cinéma, Hitchcock, c'est vraiment le cinéaste fondateur. C'est-à-dire que j'allais au cinéma comme beaucoup de jeunes gens de ma génération, et j'ai compris ce qu'était sans doute l'art de la mise en scène avec Hitchcock. Et Hitchcock appartient à une tradition qui remonte au cinéma muet. C'est-à-dire que je pourrais vous parler aussi bien de Fritz Lang et Preminger. Enfin, ce sont des cinéastes qui comptent pour moi. Et pourquoi Psychose? Parce que c'est un film Psychose qui obéit vraiment pas beaucoup de règles, c'est-à-dire que c'est à la fois la fin du film noir, mais c'est aussi un film où Hitchcock prend toutes les libertés. Et aujourd'hui, on a beaucoup de, de règles à suivre quand on va faire un film. Et Hitchcock les casse toutes, quoi. Et surtout, c'est un film qui, vers lequel je reviens chaque fois que j'ai un doute. Voilà, chaque fois que j'ai un doute sur pourquoi faire du cinéma, pourquoi avoir envie de faire des films, je regarde la première demi-heure de Psychose et je me dis oui, c'est pour ça que je veux faire du cinéma. C'est parce que c'est tellement, tellement simple, c'est tellement beau, c'est tellement direct, c'est tellement incroyablement poétique que ça encourage et ça donne envie de poursuivre le travail, quoi, et de faire des films. Et Hitchcock disait du film à Truffaut, d'ailleurs, il disait ça, il disait c'est un film qui nous appartient à tous, les cinéastes, parce que c'est un film qui travaille sur très très peu de matière, finalement. Il l'a tourné en moins de 30 jours avec une équipe de télévision en noir et blanc. Il a accepté de ne pas toucher de cachet pour ce film parce qu'il y croyait tellement qu'il est allé un peu contre tout le monde. Et c'est une leçon de cinéma. Et c'est un film qui aujourd'hui encore, pour moi, incarne vraiment ce que le cinéma peut faire de plus fort, de plus puissant, de plus évocateur.
Mais quand vous dites votre rencontre avec le cinéma de Hitchcock, c'est fait aussi par le livre auquel vous venez de faire référence, le livre des entretiens avec François Truffaut, le Hitchbook mythique. D'ailleurs, c'était grâce à vous, entre autres, avec Serge Toubiana, qu'on avait pu entendre ces entretiens. C'était il y a 20 ans sur France Culture. C'est presque plus par ce livre que par le cinéma directement de Hitchcock que vous avez eu envie de faire du cinéma ?
Oui, le livre a été une révélation parce qu'il mettait en lumière des choses qu'on n'imagine pas ou qu'on ne devine pas quand on est simple spectateur de cinéma, à savoir que l'image, c'est comme la musique, ça s'orchestre, ça se pense, que deux images mises ensemble, elles produisent quelque chose sur le spectateur. Hitchcock est le roi de ça. Et on se rend compte que le cinéma, c'est une science et que lorsqu'on la maîtrise et qu'on essaie vraiment après de l'appliquer à ce qu'on veut raconter, elle devient absolument passionnante parce qu'on en explore tous les recoins, tous les possibles. Et c'est vrai que quand je prépare un film et que je réfléchis toujours au découpage, je ne peux pas me passer d'Hitchcock parce que Hitchcock peut créer une émotion avec trois plans. Et si une valeur de plan n'est pas la même que la précédente, ça crée chez le spectateur inconsciemment un doute, un soupçon, une inquiétude, une réaction. Et donc Hitchcock, c'est la puissance de l'image par excellence. Et c'est vrai qu'avec le livre, cette livre d'entretien entre Hitchcock et Truffaut, j'ai compris aussi à quel point le cinéma était un langage, autant qu'un art de raconter ou de diriger les acteurs. C'est un langage musical. C'est un langage où tout est mélodique, finalement. Et où chaque pensée du plan a une incidence et même une influence sur le plan qui suit. Le montage, le découpage, ça produit quelque chose sur le spectateur. C'est extraordinaire et c'est surtout sans limite. Je me rends compte aujourd'hui quand je vois des films, même des films commerciaux américains, à quel point le langage cinématographique est pauvre. Il est peu varié, il est même parfois presque timide. Et on ne se rend pas compte, jusqu'à ce qu'on revoit des films d'Hitchcock ou de Fritz Lang ou de Preminger, de la richesse de ce langage. Et il faut toujours l'explorer, il faut toujours la renouveler.
Et c'était pour explorer ce langage hitchcockien que vous avez fait Espion, votre premier long métrage. Vous n'êtes jamais caché qu'il y avait dans ce film une sorte de relecture des Enchaînés, où le nitrométhane, si je me souviens bien, remplaçait l'uranium dans le rôle du MacGuffin. Il faut en passer par là, peut-être, pour pouvoir faire autre chose après ?
Sans doute, je pense que. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en général, les premiers films, mon vrai premier film, c'était Les Parallèles, qui est un moyen métrage, mais que j'ai toujours considéré comme un premier film, qui était un moyen métrage avec Mathieu Amalric. Mais c'est vrai que le premier film, en général, on l'associe toujours à quelque chose d'un peu autobiographique. Alors moi, je ne crois pas tellement à l'autobiographie, sauf si on est Ernest Hemingway ou Joseph Kessel, quoi. Ça peut être très intéressant de se raconter, mais c'est personnel, hein. Mais là, l'autobiographie, elle était peut-être simplement mon autobiographie de spectateur avec ce film Espion. Mais j'avais aussi envie de parler de choses qui m'apportaient, de l'angoisse urbaine, de la solitude, de la relation amoureuse, de l'isolement. C'est aussi des thèmes qui sont présents dans les autres films que j'ai pu faire depuis.
On sait que de toute façon, le plus difficile, c'est jamais le premier film, c'est le second.
Elle s'appelait Framboise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qu'en avait très peu pourtant décidé. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais c'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était dentiste, elle a vanille, à vanille et framboise. Sont les mamelles du destin pour ce qu'il était. les Antibes. C'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas. Qu'est-ce plus près que Pézenas? Je ne sais pas. Et tout en étant française, j'étais tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt fou qu'elle avalie, avalie et framboise. Sur les mamelles du destin, elle avait peu d'avantages. Pour en avoir davantage, elle s'en fit rajouter à l'institut de beauté. Ah, ah, ah. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Il y a l'institut d'Angers qui opère sans danger, des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas, qu'elle avalie, avalie et framboise. Sur les mamelles du destin, davantage, davantage, avantage, davantage. Puis dis-je quand elle revint, avec ses seins angevins, deux fois dix, permets donc que je lui dise, cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, avalie et mamelle, sur les framboises du destin.
Scène fameuse, là encore, d'un film qui me semble pourtant un peu oublié, de François Truffaut, c'est Tiré sur le pianiste et son Bobby Lapointe sautillant en chantant Avenue et Framboise. Il faut rappeler que c'est sous-titré quand il chante parce que les producteurs du film, à l'époque, trouvaient qu'on ne comprenait absolument rien à ce qu'il chantait. Et Bobby Lapointe est bien évidemment bientôt rejoint au piano par un certain Édouard Saroyan, dit Charlie, c'est Charles Aznavour. Et c'est le deuxième film de François Truffaut, pensé d'ailleurs, comme souvent chez Truffaut, contre le film précédent, Les 400 coups. J'ai voulu plaire cette fois aux vrais cinglés du cinéma et à eux seuls, écrit-il dans le scénario du film, quitte à dérouter une grande partie de ceux qui ont aimé Les 400 coups. Alors Truffaut, Nicolas Saada, vous auriez pu en citer un autre, L'Enfant Sauvage, par exemple, sur lequel vous avez écrit un très beau texte dans le coffret que sort Arte dans 10 jours, qui rassemble 8 films de la période United Artists de Truffaut. Pourquoi ce film de Truffaut, avant de parler de Truffaut en particulier?
Parce qu'il est exemplaire de la liberté de François Truffaut. C'est vrai que j'aurais pu parler de L'Enfant Sauvage, qui est peut-être le film un peu maudit de la carrière de Truffaut. C'est un film dont on ne parle pas assez. Mais je pense qu'aussi le Tiré sur le pianiste fait un peu partie de ces films maudits de la carrière de Truffaut. Parce que ce que j'aime dans Tiré sur le pianiste, c'est que pendant très longtemps, en fait, moi, j'étais pas vraiment spectateur du cinéma français. C'est-à-dire que j'allais voir que des films étrangers en salle. Et je regardais le cinéma français à la télévision. Et la plupart des films que je voyais à la télévision, à l'époque, hein, dans les années 70-80, me semblaient très loin de moi. C'était les films, c'était les Tontons Flingueurs, c'était les films de Gilles Grangier. Alors, de temps en temps, il y avait des choses exceptionnelles. Il y avait La Grande Illusion de Renoir ou La Lamentaise de Offus, mais le tout venant était quand même, me paraissait très loin de moi. Et puis, est venue cette question, quoi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'est faire du cinéma en France et regarder le cinéma français et essayer de voir dans le cinéma français quelque chose avec lequel je me sens en accord. Et très vite, moi, j'ai découvert Truffaut grâce à Hitchcock et j'ai trouvé chez Truffaut ce que j'ai aimé le plus dans le cinéma français et que j'ai retrouvé aussi dans la plupart des films de la Nouvelle Vague, hein, signé Romère ou Godard, c'est qu'il y a la surface et la profondeur à la fois et qu'en même temps, ce que j'aime chez Truffaut, c'est sa liberté et sa volonté en même temps de faire des films avec une discipline et un changement de registre à chaque fois. Et surtout, chez Truffaut, il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours paru très intéressant, c'est qu'il a fait semblant de jouer avec le système du cinéma français en faisant travailler des stars, en faisant des films appartenant à des genres comme le polar, comme la comédie, mais en fait, je crois qu'il a plus cru au sabotage qu'à la résistance. C'est-à-dire qu'il voulait être dans le système pour un peu changer les règles du système. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Être dedans et dehors à la fois. Et l'autre chose qui m'intéresse, évidemment, chez Truffaut, c'est son goût des films, son amour des films, et comment cet amour des films a nourri son cinéma.
Sauf qu'on peut très bien voir Tiré sur le pianiste sans connaître le cinéma de Nicolas Ray ou de Samuel Fuller. Truffaut disait qu'il s'en était beaucoup inspiré pour ce film. Ça peut plutôt être des portes d'entrée pour rentrer dans cette cinéphilie, précisément.
Oui, complètement. C'est un film noir tourné à Paris. Et c'est ce que j'ai toujours aimé, moi, dans les films de la Nouvelle Vague. C'était cette manière de se fondre dans Paris, de sortir du studio et d'aller dans la rue. Alors, d'autres cinéastes français l'avaient fait avant eux, mais là, pour eux, il n'y avait pas d'autre choix que de tourner en décor naturel et en dehors du studio, même si après Truffaut a travaillé aussi en studio. Il y a cette idée de la ville, cette idée de se perdre dans la ville, et puis cette idée de transposer des univers qui sont anglo-saxons dans une réalité française. Et c'est très aventurieux, parce que c'est tout le paradoxe des cinéastes de la Nouvelle Vague, c'est qu'ils ont été nourris par le cinéma américain. Et comment on peut être cinéaste nourri du cinéma américain et faire des films en France ? Moi, c'est une question que je me pose à chaque film, en fait. C'est-à-dire comment filmer la France, comment filmer Paris, comment filmer en se renouvelant un coin de rue, une ville, une enseigne de magasin, un immeuble. Ce sont des vraies questions. Alors c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien aller tourner à l'étranger, parce que j'ai besoin de me renouveler aussi presque visuellement. Mais cette question de filmer une ville, j'y trouve toujours des réponses en regardant les films de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire que l'exotisme, je le retrouve avec la Nouvelle Vague plus qu'ailleurs. Et puis surtout, je crois que c'est un moment de l'histoire du cinéma qui est aussi un moment de l'histoire des arts, quasiment. On peut rapprocher la Nouvelle Vague de l'impressionnisme. D'ailleurs, il y a un critique très connu de peinture qui s'appelait Clément Duranty, qui a écrit un livre sur l'impressionnisme qui s'appelait La Nouvelle Peinture, pour mettre en avant tout le courant des peintres comme Monet, Renoir. Et on peut se dire que d'une certaine manière, la Nouvelle Vague, elle poursuit ça. Donc elle poursuit une histoire de l'art plus qu'une histoire du cinéma. Et c'est ça aussi qui m'impressionne et qui fait que j'aime à ce point aussi bien les films de Truffaut que ceux de Godard ou de Romère.
Il y a eu un temps où tu ne me méprisais pas, où tu appréciais ma musique. D'ailleurs, sur l'air que tu aimais bien, Primitif a fait des paroles.
C'est gentil, ça.
Tu n'as qu'à lire le texte puisque tu connais l'air.
C'est un cri d'amour.
Évidemment, il faudrait un peu de sentiment et je me demande...
Je t'interdis. Ça m'énerve. Tu as toujours l'air de dire que je n'ai pas ce qu'il faut pour faire le métier.
Quel métier ?
Bob, vraiment, tu exagères.
Laissez-le dire, c'est un pauvre aigri.
Cléopâtre, je vous idolâtre.
Toutes portes ouvertes, en plein courant d'air, une maison vide, sans toi, sans toi. Comme une île déserte que recouvre la mer, mes plages se dévident sans toi, sans perte, nu au cœur de l'hiver, je suis un corps à vide, sans toi, sans toi.
Alors ce n'est plus Charles Aznavour qui est au piano, c'est évidemment Michel Legrand, et celle qui chante, c'est Corinne Marchand dans Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda en 1962. Là encore d'ailleurs, un second long métrage qu'il a fait connaître dans le monde entier, et on se souvient de l'émoi international qui a saisi le monde du cinéma quand la cinéaste est morte en mars de l'an dernier. C'est, à mon sens, et je crois ne pas être le seul, une des plus belles scènes du cinéma français. C'est le moment de bascule dans le film, celui où celle qui attend de savoir si elle va vivre ou mourir va passer du statut de regarder à regardante, et qui va précisément sortir dans la ville et regarder la ville de Paris. Qu'est-ce que vous a appris le cinéma d'Agnès Varda, Nicolas Sada, ou peut-être plus encore Agnès Varda elle-même?
Moi, j'ai connu un peu Agnès, hein, c'est quelqu'un que j'aimais énormément. Et ce qu'elle m'a appris, c'est cette liberté. On parlait de liberté tout à l'heure pour Truffaut. Agnès m'a appris la liberté de rapport aux choses, c'est-à-dire que quand elle a envie de faire un court-métrage de 10 minutes, elle le fait, elle se pose pas de questions. Quand elle veut faire un long-métrage d'une heure et demie, elle le fait aussi. Et moi, j'ai essayé de retenir un peu cette leçon-là, ce qui m'arrive de temps en temps, pour le plaisir. Par exemple, cette année, j'ai fait un tout petit court-métrage pour la Cinémathèque française pendant le premier confinement.
Qui ça ?
Et j'ai beaucoup pensé à Agnès, c'est-à-dire cette idée qu'il ne faut pas avoir un plan de carrière, qu'il faut faire les films dont on a envie, au moment où on a envie de les faire. Et Agnès, elle était vraiment là-dessus. Ce qui m'a aussi toujours frappé chez elle, et ce qui est aussi un aspect de la carrière de Truffaut, c'est qu'elle était sa propre productrice, Donc, elle était très dans la maîtrise de ce qu'elle faisait. Elle voulait avoir le contrôle de ce qu'elle faisait. Et elle a derrière elle un corpus de films extraordinaire et surtout une forme d'héritage, quoi. Et surtout, c'est cette question du regard féminin dont on parle beaucoup en ce moment, moi, qui m'intrigue, parce que qu'est-ce que c'est regarder qu'est-ce que c'est regarder déjà? Quelle part de masculin et quelle part de féminin il y a en nous? Je pense qu'il y a une part de masculin et une part de féminin en nous. Et moi, j'essaie souvent de chercher la part de féminin qu'il y a en moi. Par exemple, sur un film comme Taj Mahal, j'étais quand même face à un personnage féminin pendant une heure et demie, face à cette solitude, à cette angoisse. Il fallait que je cherche quelque chose en moi de différent, en tout cas. Il fallait que j'écoute quelque chose en moi de différent. Et le cinéma d'Agnès, et particulièrement Cléo de 5 à 7, ça fait partie d'une façon de voir les choses, d'entendre les choses, de regarder les choses qui m'a appris à sortir peut-être des idées reçues et à réfléchir à l'angle qu'on donne aux choses. C'est un film très important pour moi aussi, parce que je trouve que c'est plastiquement sublime. Sur Paris, c'est un film de déambulation, et le film de déambulation, c'est presque un genre en soi. Il y a Le Signe du Lion de Romer, il y a le film de Louis Malle, Le Feu Follet, et puis il y a aussi le film de Kubrick, qui est un des préférés au monde, de Eyes Wide Shut. Cette idée d'être dans la rue, dans la ville, c'est le nouveau récit moderne, et c'est presque un genre de cinéma en soi, et je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire dans ce genre. Et voilà, Agnès, elle me manque parce que je pense que par les temps qui courent, où il y a beaucoup de divisions, de collisions dans le cinéma, c'est quelqu'un qui avait de la capacité de fédérer, de parler et de faire que les gens puissent s'écouter et se comprendre mieux, y compris quand ils faisaient des cinémas très différents. Donc je pense qu'elle manque au cinéma. Elle manque beaucoup au cinéma, elle manque au cinéma français. Et je pense très souvent à elle. Et je pense toujours à Cléo de 5 à 7 quand je dois filmer quelqu'un dans la rue.
Et il me semble aussi que le grand apport de d'Agnès Varda par rapport à ses confrères, puisqu'elle était la seule consoeur de la Nouvelle Vague, c'est d'avoir des références proprement picturales avec Godard. C'est plus la peinture qui l'intéresse, notamment dans ce film. Hein, c'est les gravures et les peintures de Hans Baldungrin. Est-ce que le fait que vous-même, vous avez voulu être peintre dans votre jeunesse, avant de vouloir être cinéaste, joue dans votre amour du cinéma d'Agnès Varda?
Ah oui, complètement. Je ne crois pas qu'on puisse faire des films en étant que cinéphile. C'est peine perdue, moi, je dirais. Il faut pouvoir laisser d'autres choses vous influencer. Alors, ça peut être une photo d'un grand photographe américain, ça peut être un tableau, effectivement, d'un maître hollandais ou d'un maître de la Renaissance, ça peut être un morceau de musique aussi. Je pense qu'il faut être très perméable à d'autres choses que le cinéma. Et parce que le cinéma, c'est par essence une espèce d'addition d'art. C'est un art qui est l'addition d'autres arts. Et je crois qu'il faut avoir une culture assez large pour pouvoir jouer de ces additions et en jouer dans les films. Et c'est vrai que la culture d'Agnès, elle vient aussi de son goût de la photographie. C'est quelqu'un qui a été photographe avant d'être cinéaste. Et donc, elle a un rapport très particulier au cadre et à la lumière. Et moi, j'ai fait aussi beaucoup de photographies avant de faire des films. Et c'est très important, ce rapport au cadre. Très, très important.
Miaou. Miaou. Oh, hello. Marcello, where are you? Where did he go for that milk? My goodness. Thank you.
Marcello! Come here! Hurry up!
Je précise à nos auditrices et auditeurs que le bruit de fond que vous entendez n'est pas un problème de réception de votre poste, c'est bien l'eau qui coule de la fontaine de Trévis, séquence qui est presque une incarnation du cinéma elle toute seule, image mythique que celle d'Anita Ekberg marchant dans la fontaine de Trévis à Rome, et puis naissance d'un autre mythe encore dans cette Dolce Vita de Fellini en 1960, celui de Marcello Mastroianni en Latin Lover, alors que précisément Fellini l'avait choisi parce qu'il voulait un comédien passe-partout, quelqu'un qui ne soit surtout pas déjà doté d'un sex appeal de Latin Lover, ce que finalement le film va créer. Or, à bien y regarder, Nicolas Saada, Fellini dresse dans ce film plutôt le portrait d'un mâle plus victime que conquérant, en tout cas un homme qui courbe les chines. Est-ce que le cinéma, vous parliez tout à l'heure du côté féminin et masculin que nous avons tous, est-ce que le cinéma, ça apprend aussi à être un homme, Nicolas Saada ?
Je ne sais pas si ça apprend à être un homme, mais ça... Je pense qu'il faut, quand on fait un film, dépasser complètement le rapport théorique qu'on a au cinéma. C'est vrai que je viens, entre guillemets, de la critique, mais j'ai aimé le cinéma avant de faire de la critique, et c'est vrai que la théorie ne va pas du tout aider à faire des films. Faire des films, c'est se confronter à d'autres. Voilà, à d'autres. C'est mettre en harmonie des gens très différents pendant un laps de temps qui peut être à des fois assez long. Et c'est organiser le travail avec d'autres gens. Donc ça, je ne sais pas si ça aide à devenir un homme, mais en tout cas, ça oblige à être à un moment donné très responsable. Responsable de soi et responsable des autres. Donc ça, je pense que ça répond en partie à votre question.
Et alors ce film, La Dolce Vita ?
Oh, La Dolce Vita, moi, j'aime pas réfléchir en termes de best-of, de liste, de films préférés. Il y a un nombre absolument hallucinant de films que je considère comme des grands grands films, et c'est vrai que Fellini, pour moi, il est dans le registre des cinéastes que j'appelle les cinéastes de l'inatteignable, c'est-à-dire qu'il y a lui, il y a Bergman et Antonioni, c'est-à-dire que je regarde les films et je dis bon, laisse tomber, tu n'y seras jamais, mais en même temps, quand je vois La Dolce Vita, pour moi La Dolce Vita c'est peut-être le plus beau film du monde. C'est le plus beau film du monde parce que, d'une certaine façon, il y a absolument tout dans ce film. Il y a la beauté, il y a l'humour, il y a la peur, il y a la ville, il y a l'angoisse, il y a la lumière et l'ombre, il y a l'amour, il y a la haine, il y a tout. Tout est charrié dans... Alors, j'ai l'impression que c'est un film, en fait, que tout le monde connaît sans le connaître, puisqu'il y a cette image que vous avez citée, mythique, de La Fontaine de Trévis, mais c'est 3 minutes dans un film qui fait 3 heures. Voilà. C'est 3 minutes dans un film qui en dure 180. Et c'est un film qui a une richesse de thèmes, de séquences, de mélodies qui est juste prodigieux. Et c'est surtout un film qui, je pense, désobéit complètement à toutes les règles qu'aujourd'hui encore on veut nous imposer quand on nous parle de cinéma et de scénario. Il y a beaucoup de cours de scénario en ligne, des grands maîtres du scénario qui vous expliquent qu'un film doit être en 3 actes, qu'il faut du conflit, qu'à un moment donné, au bout de 47 minutes, il faut que l'histoire rebondisse pour aboutir vers un 2e acte. Franchement, quand on se dit qu'aujourd'hui, La Dolce Vita, qui est peut-être un des plus beaux films du monde, sinon le plus beau, n'obéit à aucune de ces règles-là, ça oblige en tant que cinéaste à se dire... N'écoute pas toujours les règles, essaie de les casser, essaie d'avancer. Et Fellini, pour moi, c'est le grand malentendu du cinéma, parce que on a toujours associé Fellini à une espèce comme ça d'excès baroque, et ça, c'est plutôt son cinéma d'après 8,5. Mais je crois que c'est vraiment un cinéaste réaliste. Mais ce qui est très beau chez lui, c'est que le réalisme, pour lui, c'est pas une espèce de vérité documentaire, c'est-à-dire qu'il regarde le monde. Et il voit dans le monde ce qui d'un seul coup devient poétique. C'est-à-dire que si vous voyez une terrasse de café et qu'à côté de la terrasse de café, il y a un chantier, il suffit de vous mettre vraiment à la lisière de ces deux mondes, le chantier et les gens en terrasse de café, pour que quelque chose se produise qui fait qu'on crée une image qui est pas celle du monde et qui est poétique. Parce qu'on voit deux mondes cohabiter et on peut créer la mise en scène à partir de ça. Et moi, c'est quelque chose que je retiens toujours dans le travail de Fellini. C'est cette manière qu'il avait de regarder le réel et d'en saisir la poésie, quoi. Et ça, c'est unique. Et en France, on n'a pas cette tradition-là, du tout. Et moi, je dis toujours, le cinéma est mon pays. Et j'aime les changements de langue, j'aime les changements de registre, j'aime les changements d'espace. Et voilà, et La Dolce Vita fait partie de ce pays.
こちらの言う通りにすれば子供の命は保証する。3000万円用意する。
何？3000万円？
番号の揃ったのはごめんだ。1万円札で1000枚。
ちょっと待ってくれ。1万円札で
1万円札で1000枚。
1万円札で1000枚。
5000円札で3000枚。
5000円札で3000枚。
1000円札で5000枚。
1000円札で5000枚。
決めて3000万だ。
3000万？
明日中に用意しろ。こっちはその後で詳しい指示をする。子供が可愛かったら警察には知らせるな。
わかった。よくわかった。
じゃあ、さようなら、権藤さん。
あ、もしもし。もしもし。もしもし。
3000万円って言ったわね。ねえ、払って、すぐよ。ジュンを早く。
落ち着け。ジュンは必ず取り戻す。金ならいくらでも払う。金ならまた作ればいいんだ。とにかく警察に電話。警察に知らせたら準備危ない。
しかし、あなた、
心配するな。大丈夫だよ。大丈夫。
ママ呼んだ。
ジュン
ねえ、どうしたの？ママ
なんてこった。引いていたずらしやがる。
Pour ceux qui ne comprennent pas le japonais parmi vous, c'est un homme d'affaires qui est appelé chez lui par un inconnu qui lui annonce qu'il a enlevé son fils, qui réclame une rançon. Sauf que quand il raccroche, qui arrive tout guiré à la maison? Eh bien, son fils. Il va vite se rendre compte, notre homme d'affaires, qu'il y a eu méprise et que c'est en fait le fils de son chauffeur qui a été enlevé. Doit-il se ruiner pour lui rendre la liberté? Ça va être une des grandes questions du film. L'homme, c'est Toshiro Mifune, et le film, c'est Entre le ciel et l'enfer, d'Akira Kurosawa, sans doute un de ses plus grands films, un de ses plus déchirants. Aussi, c'est un film, Nicolas Saada, qu'on aurait du mal à assigner à un genre. Il commence comme un film policier, mais ça devient beaucoup plus complexe après. Ça devient un film social quasiment métaphysique.
C'est ça que j'adore, c'est qu'effectivement, j'aime ce film parce que c'est à la fois un film de genre et c'est beaucoup plus que ça. Et c'est, je crois, la grandeur du cinéma policier, du film noir, du film de genre. C'est que moi, je comprends mieux le monde avec Entre le ciel et l'enfer qu'avec un film de Ken Loach. C'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment de comprendre le monde. Et en même temps, je vois se déployer sous mes yeux un projet de cinéma qui est magnifique parce qu'il tente l'impossible, il y réussit. C'est-à-dire qu'il mélange l'action et l'émotion. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est sur le fil de l'action, on est saisi par quelque chose qui n'a rien à voir avec l'action, qui est vraiment une émotion très pure, très directe. Ça peut être de la peur, ça peut être une envie de pleurer, ça peut être un moment de sidération. Et c'est tout l'art de ce film. C'est-à-dire que c'est Chaplin et Hitchcock en même temps, quoi, Entre le ciel et l'enfer. C'est effectivement l'histoire de ce kidnapping, et comme Kurosawa ne fait rien comme tout le monde, cette histoire, elle est en fait résolue assez vite. Je vais pas divulgâcher, comme on dit, le film pour ceux qui l'auraient pas vu. Mais ce qui intéresse Kurosawa, c'est moins cette énigme et ce kidnapping que les conséquences qu'elles ont sur un ensemble de personnages qui sont issus de plusieurs milieux sociaux. Et à la fin du film, finalement, il confronte les deux personnages centraux de cette histoire et il les sépare par une espèce de mur, par une grille, par un rideau de fer. Et c'est un film qui fait un constat terrible, pas sur la lutte des classes, quoi, mais sur la guerre qu'il y a permanente entre les hommes à cause de la société. La société produit du malheur et ce malheur produit la haine. C'est un peu le thème de beaucoup de films de Kurosawa. Mais là, ça atteint un degré de profondeur en même temps. Du point de vue de la mise en scène pure, c'est un film que j'étudie chaque année. C'est un des films que je regarde le plus. Voilà, il fait partie des films que je revois chaque année. Il y a Psychose, il y a Bonnie Lake a disparu de Preminger, il y a Entre le ciel et l'enfer, Eyes Wide Shut. Ce sont des films vers lesquels je reviens régulièrement parce que j'apprends toujours quelque chose. Dans le cas de Entre le ciel et l'enfer, c'est un film où Kurosawa tourne à 3 voire 4 caméras, mais il ne tourne pas à 4 caméras pour se couvrir, parce qu'aujourd'hui, par exemple, à la télévision, on utilise plusieurs caméras pour avoir, entre guillemets, de la matière au montage. Lui, il ne réfléchit pas du tout comme ça. Lui, il essaie de couvrir l'espace de façon extrêmement géométrique, parce qu'il a une vision géométrique de l'espace. Et dans la scène qu'on a écoutée, qui se passe entièrement en intérieur, dans un appartement, perché sur une tour qui domine toute la ville de Kyoto, je crois. Il y a une science du découpage qui n'est pas seulement liée à cette utilisation de trois caméras, qui est liée aussi à, on parlait d'Agnès Varda tout à l'heure, mais aussi à la science picturale de Kurosawa. Il y a des plans, on dirait le syndic des drapiers de Rembrandt, quoi. On dirait des tableaux de Carpaccio. C'est juste absolument sidérant. Et c'est fou comment, finalement, ce qui fait le mouvement dans le film, c'est pas la caméra en mouvement, c'est l'enchaînement des cadres et de la composition dans chaque cadre. C'est-à-dire que la composition fait le mouvement. Donc là encore, on en revient à ce que je vous disais sur Hitchcock, c'est que la science de l'image, plus on essaie de la comprendre, plus on essaie de l'aimer, plus on essaie de la pratiquer, et plus elle nous procure une sensation et un plaisir dans la fabrication même de ce qu'on fait, qui est inégalable. J'aimerais tourner plus parce que justement, chaque fois que je vois les films des autres, parce que j'ai besoin des films des autres, j'apprends de plus en plus sur mon métier. C'est-à-dire que je n'ai pas un regard d'historien de cinéma ou de critique de cinéma. J'ai vraiment maintenant un regard de fabricant de films quand je vais voir un film, n'importe lequel. Et ce besoin que j'ai des films des autres, ce n'est pas simplement un besoin de connaissance, c'est un besoin de compréhension de ce que je fais. Et les films m'aident à comprendre ce que je fais, beaucoup.
D'autant que Kurosawa est tout sauf un metteur en scène dogmatique. La scène, la façon de découper l'espace que vous décrivez dans l'appartement n'est pas du tout la même que quand il descendra dans les bas-fonds, puisqu'on va réellement aller du ciel vers l'enfer. N'est pas la même non plus que cette scène extraordinaire de remise de rançon dans un train en mouvement. Kurosawa met en scène en fonction de ce qu'il veut raconter à ce moment précis.
Oui, ça c'est vraiment la grammaire absolue de l'image, encore une fois, au service de ce qui est raconté. Et cette idée que on n'a pas besoin de faire appel à des grands sujets, c'est pas un film sur c'est pas un film sur la condition des quartiers défavorisés au Japon, c'est pas un film sur la justice, c'est pas voilà, on est loin de ces films à thèse qui ont à un moment donné pullulé sur tous les écrans du cinéma mondial. C'est d'abord un film de genre, c'est-à-dire que c'est quand même l'adaptation d'un roman policier américain, et c'est d'abord aussi un film de genre. Donc c'est un film de suspense, et à chaque fois que le suspense arrive à son point d'efficacité, il y a quelque chose qui rentre dans le film et qui n'a rien à voir avec le genre. Et là-dessus, c'est un film que j'ai beaucoup revu avant de faire Taj Mahal, par exemple. C'est un film qui m'a, d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses au téléphone, et ensuite parce qu'il y avait ce mélange entre l'action et l'émotion.
Écoutez France Culture Plan Large avec Nicolas Saada pour son autoportrait en cinéphile. Et voici déjà, Nicolas Saada, l'heure de votre dernier choix. Le premier film, sans doute réellement carpenterien, de John Carpenter, Asso, sa relecture quasi abstraite du Rio Bravo d'Howard Hawks. À réécouter cet extrait sans en voir les images, je me dis que c'est aussi le mélomane qui aime le cinéma de Carpenter, puisque la musique qu'on entend, ces plages électroniques, sont signées Carpenter aussi.
C'est un des rares cinéastes à avoir composé les musiques de ses films, comme Chaplin et Satyajit Ray. Et oui, ben Carpenter, c'est très important, comme tout le cinéma. Alors, curieusement, aujourd'hui, quand on dit cinéma de genre, on pense toujours au cinéma d'horreur. On ne pense pas forcément au cinéma policier, je ne sais pas pourquoi, ni au film noir.
Ou mais le drame, qui est un genre en soi. Hein.
L'appellation du film de genre, c'est un peu réduite au cinéma fantastique, presque au cinéma d'horreur. Moi, c'est extrêmement, ça a été important dans ma jeunesse, ce cinéma de John Carpenter et celui de Dario Argento, celui de Jacques Tourneur, tout ce cinéma fantastique qui a construit aussi un rapport que j'ai au cinéma comme art de la fantaisie, de la poursuite de quelque chose qui n'a rien avec la réalité. Et c'est vrai qu'un jour, moi, j'aimerais beaucoup faire un film fantastique, tourner un film fantastique. Et Carpenter, pour moi, c'est un cinéaste essentiel, parce qu'il y a, comme chez Hitchcock d'ailleurs, il y a un sens plastique et un sens du rythme, du tempo des séquences qui est tout bonnement sidérant. Et surtout, comme Hitchcock, il fait quelque chose de très spectaculaire avec une très grande pauvreté d'éléments. Quand je dis pauvreté, je ne parle pas de façon qualitative, mais vraiment de manière quantitative. C'est-à-dire qu'avec très très peu de choses, il fait de très très grandes choses. Et c'est quelque chose qui, je pense, est un enjeu majeur quand on fait des films aujourd'hui, et je pense aujourd'hui plus que jamais. Qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Qu'est-ce qu'on peut produire à l'image avec du peu? Et Carpenter est un maître de ça. C'est un film qui a été tourné, je crois, en 24 jours. Et c'est un science qui pour moi est le grand incompris du cinéma contemporain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été abandonné par la critique classique, puisque même de son vivant, on ne peut pas dire que la critique ait fait très attention à lui, abandonné par les reconnaissances officielles, les Oscars, les festivals, voilà. C'est une leçon d'humilité, le parcours de Carpenter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, justement, a toujours fait des films parce qu'il voulait en faire. Il n'a pas de pression sociale pour faire autre chose que des films. Et pour moi, ça, c'est une leçon. C'est-à-dire qu'il faut éviter la pression sociale quand on fait du cinéma. Il faut faire du cinéma parce qu'on a envie de faire des films. Il ne faut pas faire du cinéma parce qu'on veut tutoyer une récompense, on veut être dans telle ou telle sélection. Je pense que ça, c'est une erreur. Il faut faire les films parce qu'on les sent et qu'on doit les sortir de soi. Et John Carpenter, il a cette honnêteté-là de cinéaste. Et si j'ai appris quelque chose de ses films, c'est cette honnêteté. Cette idée qu'il faut s'écouter, aller au bout de son idée et pas forcément calculer le film d'après ou le film suivant ou le film précédent, je ne sais pas.
Mais même si Carpenter ne peut toujours pas tourner actuellement, la reconnaissance critique, il me semble, est là à présent. En tout cas, on se souvient plus du cinéma de John Carpenter que de ceux qui étaient beaucoup plus reconnus dans les festivals, voire récompensés, parfois même avec des palmes d'or. Et je ne vais pas citer des noms, mais enfin, on les reconnaîtra pour ceux qui les connaissent, dont on ne se souvient plus du tout aujourd'hui.
C'est sûr que aujourd'hui on parle plus de John Carpenter que de Billy August, ça c'est sûr. Mais la question de Carpenter aujourd'hui, c'est un cinéaste qui a été découvert par une toute nouvelle génération de gens qui sont un peu plus jeunes que moi et qui sont juste conquis par son travail, parce que c'est qu'effectivement il y a en plus ce que vous disiez, c'est que la musique électronique, toute la French Touch, toute la musique française des années 90-2000 a été très influencée par le travail de compositeur de John Carpenter. Donc il a reconquis un public, et pas forcément un public cinéphile, qui est un public qui vient de d'autres segments, je dirais, de la culture populaire, de la musique en particulier, et même de la mode parfois. Mais je disais tout à l'heure, le cinéma est mon pays, et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est entendre des langues différentes, entendre des voix différentes, et on en revient à cette difficulté d'être cinéaste en France et de faire des films en langue française ou pas. Et pour ce qui est du cinéma de genre, j'ai l'impression que le cinéma de genre, il est absolument indissociable de la langue, quoi. Et pour moi, c'est la langue anglaise que j'associe en général au cinéma de genre. J'ai l'impression que le cinéma de genre dont on se souvient, c'est soit le cinéma italien, soit le cinéma américain. Et ça pose la question de savoir dans quelle langue tourne-t-on, dans quelle langue s'exprime-t-on. Alors moi, j'ai un peu contourné ces questions-là avec Taj Mahal et même dans Thanksgiving, c'est-à-dire que je crée des personnages anglo-saxons, et ça me permet d'avoir, à l'intérieur même de ce que je raconte, des scènes entièrement dialoguées en anglais. Et je pense que ça vient de là d'où je viens, quoi, justement. Moi, j'ai grandi dans un environnement avec une éducation qui m'a fait rencontrer des gens de pays très différents et de cultures très différentes. Et j'ai envie que ça ressorte aussi dans le cinéma que je fais.
On arrive sur la fin de cette émission, en tout cas de ce dialogue avec vous, Nicolas Saada. Est-ce que le cinéma contemporain vous frappe toujours autant? Il est quand même symptomatique que dans les films dont on a parlé, ils sont des années 60 ou 70. Est-ce qu'il y aurait un grand cinéaste ou même quelqu'un en devenir aujourd'hui avec qui vous auriez une relation particulière?
Oh ben oui, c'est-à-dire que c'était très difficile. Hein,
oui, oui, c'est impossible, choix, hein. C'est impossible
j'ai
de faire ça.
J'ai jamais fait impossible, parce que j'aurais préféré vous sortir 257 000 films. Et j'ai choisi, entre guillemets, des films, comme on dit, du passé, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi important de parler des films, comme on dit, du passé. Mais le cinéma d'aujourd'hui me passionne, le cinéma d'aujourd'hui me stimule, tout autant que celui d'hier, et me motive. Et il y a un nombre absolument incalculable de cinéastes que j'admire. Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Fred Wiseman, Arnaud Desplechin, qui est un cinéaste dont j'adore le travail, Wong Kar-wai, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Il y a un nombre incalculable de films aujourd'hui qui nourrissent mon rapport au cinéma et mon amour du cinéma. Et je vais le plus souvent possible au cinéma voir les films d'aujourd'hui qui sont importants, évidemment.
Merci beaucoup, Nicolas Saada. Vivement que les salles rouvrent pour passer encore du temps avec les cinéastes que vous aimez et voir, par exemple, comment David Lynch avait prophétisé 20 ans avant le passage général du cinéma au numérique. Je rappelle votre livre d'entretien avec des cinéastes, mais aussi des scénaristes, des producteurs, même des compositeurs et un acteur. Question de cinéma est publié par Carlotta. Et puis, pour voir votre mini-série Thanksgiving, elle est rediffusée sur Arte le jeudi 26 novembre. On pourra même la voir dès le 11 novembre sur arte.fr. Et puis enfin, on peut découvrir ce court-métrage que vous avez évoqué, que vous avez réalisé pendant le confinement précédent, Kissas, comme un voyage immobile, comme ça, dans l'histoire du cinéma. C'est sur la chaîne Vimeo de la Cinémathèque française. Tous les films dont nous avons parlé et entendu des extraits avec vous sont disponibles en DVD et en Blu-ray ou sur les plateformes. Vous trouverez toutes ces informations sur la page Plan Large du site de France Culture grâce à Pascaline Bonnet. Ils sont notamment sur la Cinéthèque, la plateforme des cinéastes, qui a fêté hier ses 5 ans d'existence et met pour l'occasion en lumière 50 titres stars du catalogue Studio Canal. Ça va du début du parlant aux années 2000 et vous y retrouverez Renoir, Godard, Sauté, Tati, Buñuel, Lynch ou encore Cimino et plein d'autres, tous présentés évidemment dans leur version restaurée. Le tout disponible à un tarif préférentiel jusqu'au 22 novembre. Et puisqu'on parle de plateforme cinéphile comme chaque début de mois, on vous propose, chères auditrices et auditeurs de Plan Large, de venir découvrir Mubi qui ce mois-ci fait un focus sur le cinéaste japonais sidérant qui joue Yoshida, un des fers de lance de la nouvelle vague japonaise, avec notamment aujourd'hui en film du jour Eros plus Massacre, son chef-d'œuvre complètement dingue et de 1969, très onirique et très violent aussi, qui visait rien moins qu'à détruire la structure masculine du pouvoir. Quant à Plan Large, en lien avec l'émission que nous avions consacrée à Jeff Nichols en octobre 2017, nous avons choisi Shotgun Stories, le premier long métrage de Jeff Nichols qui prouve qu'on peut filmer des rednecks sans en faire des white trash. Et c'était à la fois la naissance d'un cinéaste et d'un acteur magnifique, Michael Shannon. Un film que vous trouverez sur mubi.com à la page de France Culture, donc mubi.com/France Culture en un seul mot. Vous aurez un mois pour le découvrir et pour gagner des accès gratuits de 3 mois à la plateforme Mubi. Je vous rappelle que vous pouvez aussi jouer, répondre à un quiz. C'est le jeudi après-midi sur le compte Instagram de France Culture. Et maintenant, direction Koker, petit village du nord de l'Iran, que rien ne prédisposait a priori à figurer à jamais dans la géographie cinéphile, et pourtant...
باید بارم بهش بدم
فردا میبریم مدرسه میری
فردا بدم معلممون باش دعوا میکنه اون از مدرسه میندازه بیرون
با حقشه باید بیرون میکنه حواسش کجا
من اشتباهی برشتم
حواس تو کجا
و آخه هر دو جوره هم بوده.
خب من چیکار کنم؟ فردا بیبریم میدیدیه.
خب اگه این شمارم معلوم اون باش دوا میکنه.
خانش کجا؟
پشته.
این همرا پشته؟ مگه میشد رفت پشته؟
چیزی نیست. دوستاش آوردم اون از اونجا میام مدرسه.
مگه میشد بچه از اونجا بیان اینجا مدرسه؟ دروغ نگو.
خورم من دروغ میام یا برا بپرس.
قسم نخور. برو سر نقشه. باید نقشه تو رو بنویسی.
باید برم بهش بدم آخی.
من گفتم برو نقشه تو بنویس. باید بری نام بخری. من گفتم برو.
ولی آخه من باید حتما برم بهش بدم.
برو سر مقشد.
باید برم بهش بدم.
برو سر مقشد.
گفتم
برو سر مقشد.
C'est avec un petit garçon de 8 ans, un rien obstiné, qui tentait d'expliquer à sa mère, dans un pur dialogue de sourds, qu'il était de la plus grande importance pour lui d'aller chez son ami, lui rapporter le cahier qu'il avait emporté avec lui par mégarde, faute de quoi l'ami allait se faire expulser de l'école. C'est avec ce petit garçon, donc, qu'Abbas Kiarostami, plus de 15 ans après ses débuts, fera irruption sur la scène du cinéma mondial. C'était Où est la maison de mon ami en 1987, et ce film, ainsi que plus encore son doute les deux qu'il tournera ensuite dans le même village et La vie continue en 1991 et Au travers des oliviers en 1994 qui forment ensemble ce qu'on appelle communément la trilogie de Cocker du nom du village où se passent ces trois films. Ces trois films donc assureront sa gloire avant même la Palme d'Or qu'il recevra en 1997 avec Le goût de la cerise. Les trois films sont réunis en version restaurée en DVD et en Blu-ray aux éditions Potemkin, de quoi nous faire patienter en attendant la grande rétrospective et exposition Kiarostami au Centre Pompidou qui aurait dû se tenir au printemps dernier, qui a été annulée pour cause de pandémie mondiale et dont on espère très fort qu'elle pourra bien se tenir au printemps prochain. En principe, c'est annoncé du 15 avril au 4 juillet. Trois films donc pour se replonger dans le cinéma d'Abbas Kiarostami et sa poétique singulière, alliage unique, je crois, de naturalisme et de distanciation autoréflexive, Mathieu Macheret.
Oui, c'est bien dit, Antoine, mais il y a peut-être aussi l'attachement pour un lieu et sa géographie mystérieuse qui est à la base de cette trilogie assez unique dans l'histoire du cinéma. C'est un fleuron de la modernité récente, tant elle multiplie jusqu'au vertige les perspectives en trompe-l'œil comme les couches de lecture. Alors tout est parti d'un film fait pour le jeune public, Où est la maison de mon ami, que le maître iranien Kiarostami, alors directeur du Kanoun, le département réalisation à l'Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes de Téhéran, est parti tourner dans les ruelles biscornues et aux alentours de Cocker, donc ce petit village de briques crues à flanc de colline du nord de l'Iran, dans la province de Gilan, avec les habitants et les enfants du coin. Donc très remarqué, comme vous l'avez dit Antoine, le film est sorti des frontières, il est devenu le principal véhicule de la diffusion et de la reconnaissance du cinéma iranien à l'étranger. Mais trois ans plus tard, le 21 juin 1990, le village est rappelé à une plus tragique postérité puisqu'il a été l'épicentre d'un terrible tremblement de terre qui a dévasté toute la région et causé près de 50 000 morts. Alors la catastrophe appelle Kiarostami à revenir sur les lieux de ce qu'il a précédemment filmé comme pour vérifier si, en dépit du désastre, il en restait bien quelque chose, des traces, des vestiges, des visages peut-être, des reliefs et des souvenirs. Alors les deux volets suivants et La vie continuée au travers des oliviers sont donc sortis sans prévenir de la cuisse du premier film qu'ils ont été amenés à prolonger à chaque fois par un drôle d'effet gigogne qu'on pourrait appeler dans un jargon un peu plus pompeux un dispositif métalinguistique en quelque sorte, celui, pour être plus simple, du film dans le film. Et donc à l'image des premiers courts-métrages de Kiarostami, Où est la maison de mon ami se présentait comme une étude de cas enfantine. Un soir, après l'école, le jeune Ahmad emporte par erreur le cahier de son voisin de pupitre et entend aller lui rendre contre l'avis de ses parents. Et il y a tout un suspense moral qui s'attache aux pérégrinations de l'enfant taraudé par son erreur, chevillé à son idée fixe comme beaucoup de personnages de Kiarostami, et qui bascule à mesure que la nuit tombe dans une dimension fantasmatique qui est presque celle du conte. Et La vie continue met en scène un personnage de cinéaste, qui est un peu le double de fiction de Kiarostami, qui revient avec son jeune fils, sur les lieux du tournage à la recherche du jeune Ahmad. Et lui, c'est un périple qui se fait en voiture et qui consiste d'abord en une traversée des décombres du tremblement de terre avant de rencontrer les populations jetées à l'extérieur, sans abri, qui habitent maintenant dans des campements de fortune et parmi lesquels on va retrouver quelques figures du premier film. Et puis, au travers des oliviers, va pousser encore plus loin la réflexivité, puisque cette fois, il adopte la forme d'un tournage en faisant revivre des scènes du deuxième film. Et le film s'ouvre, au travers des oliviers, s'ouvre sur une très belle scène. C'est une scène de casting où on voit un autre personnage de cinéaste, cette fois barbu, qui a rassemblé des étudiantes au milieu d'un champ pour se promener parmi elles, pour passer parmi elles et puiser des visages qui l'intéressent. Voilà, il repère les beaux visages de ces jeunes filles, celles qui pourraient éventuellement participer au film. Mais le tournage que raconte au travers des oliviers est perturbé par un différent amoureux qui oppose deux acteurs du cru. Tahereh, l'une des écolières retenues, et Hossein, magnifique personnage, qui est son soupirant, méprisé pour son illettrisme et son métier de maçon. La scène à enregistrer, et que les spectateurs reconnaissent comme un passage emprunté au deuxième volet, se superpose et parasité par la flamme qu'Hossein ne cesse de déclarer à l'élu de son cœur, qui reste muré dans le silence, alors que devant la caméra, ils sont censés jouer de jeunes époux, c'est toute l'ironie et le renversement incroyable, le vertige de cette scène. Là où Elavi continue se penchait sur la relation père-fils et la notion de confiance qui peut s'établir au cœur de l'éducation, au travers des oliviers est tout entier consacré à l'amour et à ses tourments, saisis au crible du film en train de se faire, dans les raies de la matière brute du cinéma, puisque Kiarostami nous confronte à une succession de prises ratées, comme si les rushs étaient partie prenante de la fiction. Autour des personnages, ce qui s'établit surtout, c'est les magnifiques paysages traversés, les collines dévalées, les routes sillonnées, qui s'inscrivent comme un labyrinthe mystérieux et comme une forme d'écriture du monde. Et évidemment, on décrit souvent le cinéma de Kiarostami comme un dispositif, mais ce que cherche son cinéma, c'est évidemment, à travers toutes ces circulations, le sens, la communication humaine, qui cherche à se frayer un passage dans les formes mouvantes d'une réalité souvent indéchiffrable.
Merci Mathieu Macheret, la trilogie de Cocker, soit où est la maison de mon ami et la vie continue, et au travers des oliviers, c'est en DVD et en Blu-ray aux éditions Potemkin. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui, à la prise de son Nasser Moussaoui. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Laurent Polleret. La semaine prochaine, c'est Jacques Doyon qui se pliera au jeu de l'autoportrait en cinéphile, et puis Ntebin nous parlera du fascinant Soy Kouba de Mikhaïl Kalatazov.